Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, dans l'évangile selon saint Marc, nous en sommes au début du chapitre 3, en fait au verset 6. Je vous rappelle que vous avez le polycopier qui couvre les chapitres 1 à 5 de saint Marc sur le site. Voilà le texte que nous allons expliquer. Les pharisiens étant sortis, contre Jésus avec les Hérodiens sur les moyens de le perdre. Mais Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une foule nombreuse suivit de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem et d'Idumée et d'au-delà du Jourdain, et ceux des environs de Tyre et de Sidon, ayant appris ce qu'il faisait, vinrent un grand nombre auprès de lui. Il dit à ses disciples de lui tenir prête une barque, à cause de la foule, pour qu'il n'en fût pas accablé. Car comme il en guérissait beaucoup, tous ceux qui avaient quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et criaient en disant « Vous êtes le Fils de Dieu » et il leur défendait avec de sévères menaces de le faire connaître. Donc voilà ici quelque chose de bien pénible, à savoir que les pharisiens, les hérodiens, dont deux sectes juives, qui dirigeait le pays, refuse la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, refuse de la reconnaître, refuse de la voir derrière le voile de la chair humaine de notre Seigneur, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme, et refuse donc de s'humilier devant cette divinité. Alors qu'au contraire, les esprits impurs, c'est-à-dire les démons, se prosternent devant lui et le reconnaissent comme fils de Dieu, vont le dire, vous êtes le fils de Dieu. Qui ne s'étonnerait après cela, disent les pères, de l'aveuglement des Ariens, qui malgré la gloire de sa résurrection refuse le titre de fils de Dieu à celui dont les démons proclament la filiation divine lorsqu'il est encore revêtu de sa chair mortelle. Pourquoi? Parce que vous savez que les Ariens, derrière Arius, leur chef de file, on est au 3e siècle, 3e, 4e siècle, derrière leur chef de file, refusait de reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne voyait que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, considérait que notre Seigneur Jésus-Christ n'était que la première des créatures. La prédication de la vérité, disent les pères, est donc interdite aux pécheurs, dans la crainte que ses disciples, en prêtant l'oreille à sa parole, ne le suivent dans ses égarements. Un mauvais maître, en effet, est un démon tentateur, qui au vrai mêle le faux afin de cacher ses menées frauduleuses sous l'apparence de la vérité. Du reste, non seulement les démons, mais ceux que Jésus-Christ guérissait, les apôtres eux-mêmes, recevaient l'ordre de taire les miracles qu'il opérait, dans la crainte que la manifestation de sa majesté divine retardât l'œuvre salutaire de sa passion. Je vous l'ai déjà expliqué, la plupart des pères de l'Église pensent que les démons ignoraient au moins, ils n'avaient pas la certitude de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient un doute. Mais ils étaient devant un tel mystère, un homme qui est à la fois Dieu et homme, qu'ils ne croyaient pas vraiment en sa divinité. Les pères font remarquer que si les démons avaient cru en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, avaient réalisé que Dieu le Père avait envoyé son Fils pour s'unir à la nature humaine, pour détruire complètement, ici-bas sur terre, le pouvoir des démons, jamais les démons n'auraient fait crucifier. Donc ils l'ont fait crucifier parce qu'ils ignoraient qu'il était Dieu. Ils n'avaient pas au moins la connaissance de façon certaine. Alors nous, catholiques, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et donc lorsque les Juifs luttent contre notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas reconnu sa divinité, je dirais, non pas qu'ils ont une excuse, mais ils ont une certaine excuse dans le sens qu'ils ignoraient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est ça le drame. Le catholique moderne, même les catholiques modernes, beaucoup d'entre eux savent que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et nous, catholiques de tradition, nous savons très bien qu'il est Dieu. Il est vraiment Dieu et homme à la fois. Et tout en sachant que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, nous refaisons lui obéir. À chaque fois que nous commettons un péché, eh bien, il est gravissime parce que nous refusons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ que pourtant nous connaissons de par la foi catholique qui est en nous. La foi catholique étant dans un catholique, même si le catholique vient un tel péché mortel, attention, le péché mortel ne détruisant que la charité, mais ni l'espérance ni la foi. Alors, un catholique qui nie directement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui refuse la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, est finalement bien plus coupable que quelqu'un qui nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sans avoir la foi. La foi, c'est deux choses. C'est à la fois reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi vivre selon cette divinité. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui possédera le royaume des cieux. Celui qui dit « Seigneur, Seigneur », c'est quoi ? Celui qui a la foi, mais celui qui écoute la volonté de Dieu et qui la met en pratique. Et ça, c'est la charité. Donc au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés selon notre foi, comme disent les prophètes protestants, mais selon notre degré de charité. Au verset 7, il est dit que Jésus alors se retira avec ses disciples vers la mer et qu'une foule nombreuse le suivit. Donc qu'est-ce que représente cette phrase ? Voilà le sens allégorique et le sens caché. Donc Jésus, disent les pères, sortant de la synagogue pour se retirer vers la mer, figure le salut des nations qu'il daigna visiter en leur communiquant le don de la foi après qu'il eût abandonné les Juifs à cause de leur perfidie. Car les nations agitées par les flots d'erreur sont comparées justement à l'agitation de la mer. Il va vers la mer parce que la mer représente le monde. Le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer après ses apôtres traverser les mers pour aller apporter le message de l'Évangile. Donc, il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chercher abri dans l'hôtellerie et il n'y a pas de place pour lui. Donc, je vous l'ai déjà expliqué souvent et je crois que c'était un point très important qu'il ne faut jamais oublier. Ça, je reviens là-dessus. Chaque fois, j'en ai l'occasion que notre Seigneur Jésus-Christ avait voulu que les Juifs soient ses premiers adorateurs. Ils ont refusé. De même, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que les catholiques soient ses seconds adorateurs. Et malheureusement, beaucoup ont refusé. Alors notre Seigneur Jésus-Christ risque d'aller chercher un troisième groupe de gens qui seront ses troisièmes adorateurs, en espérant que cette fois-ci, ils seront fidèles. On voit très bien aujourd'hui l'infidélité de la plupart des catholiques, et ce n'est pas simplement valable pour les autres. Il ne faut pas se dire, mais moi je suis plus fort que les petits copains, je ne ferai pas ces mêmes erreurs. Nous sommes capables de faire les mêmes erreurs. Il n'y a pas une seule erreur, un seul péché commis par le voisin que je ne sois pas capable de commettre moi-même si je me retrouve dans certaines conditions. Une foule nombreuse donc le suivit des diverses provinces, c'est-à-dire qu'il reçut avec bonté un grand nombre de nations qui plus tard vinrent à lui, attirées par la prédication des apôtres. La barque qui porte le Seigneur sur les flots, c'est l'Église formée des divers peuples de la terre. Donc la barque passe au milieu des flots, jette les filets, c'est une barque de pêcheurs, attention. Donc cette barque représente l'Église catholique, représente les apôtres qui jettent les filets pour capturer les poissons. Et là, ils vont faire un tri. Attention, ils ne prennent pas tous les poissons. Ils font un tri. Ils gardent les bons. Et les mauvais, ils les rejettent à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il garde les mots, ça veut dire qu'il va garder les âmes qui cherchent vraiment Dieu. Toute âme qui cherche Dieu trouvera notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup d'âmes qui cherchent Dieu tout en refusant notre Seigneur Jésus-Christ. Ils cherchent Dieu à condition que notre Seigneur Jésus-Christ ne leur demande pas de changer leur propre vie. On le voit malheureusement très fréquemment dans le monde moderne. Combien de fois j'ai eu des cas comme ça de gens qui viennent une fois parce que ils ont entendu parler de la foi catholique, ils ont un ami qui vient ici à la messe ou qui a fait une retraite ici avec moi, et puis donc ils viennent pour se renseigner un petit peu, ils viennent faire connaissance avec ce prêtre, donc ils viennent faire connaissance avec moi, mais on sent très bien qu'il y a un obstacle à la conversion. Alors ils viennent, ils parlent avec moi, ils me disent pas tout évidemment, ils me disent une partie des choses, et puis ils repartent, merci, merci. En général, ils vont vous dire merci, mon père, et je reviendrai sans doute, mais ils ne reviennent jamais. Pourquoi? Puis quand on se renseigne un petit peu, bah, c'est tout simplement parce que ils savent très bien, ils sentent très bien confusément, que s'ils restent, comme dans ma chapelle, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, s'ils restent, il va falloir qu'ils mettent leur vie de chaque jour en conformité avec ce que demande notre Seigneur Jésus-Christ. En général, 9 fois sur 10, il y a un problème de mariage. Ils vivent dans le concubinage et ils se rendent très bien compte. Si je reste, il faut que je change, il va falloir que je quitte ma concubine ou mon concubin. Ils refusent, ils ne reviennent pas. Donc, cette barque qui porte le Seigneur, c'est représente l'Église. Et lorsque les filets sont ramenés à bord, on fait le tri et on garde ceux qui cherchent Dieu. Et on les garde dans les cales du navire. Et lorsque les cales sont pleines, pleines de poissons, de bons poissons, à ce moment-là, le navire peut naviguer vers le port du salut. Ce port du salut, c'est l'entrée du paradis. Donc notre Seigneur va monter dans cette barque pour n'être point accablé par la foule, disent les pères. C'est-à-dire qu'il fuit le tumulte et l'agitation des âmes charnelles. Il vient à ceux qui méprisent la vanité du siècle et se complaisent à faire en eux sa demeure. Il vient. Et en gros, ne garde avec lui que ceux qui cherchent Dieu. Toute personne qui cherche Dieu est la bienvenue dans l'Église catholique. Et celui qui ne cherche pas Dieu, qui ne cherche pas le vrai, qui refuse de s'humilier devant le vrai, devant notre Seigneur Jésus-Christ, devant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ne sera pas bienvenu dans l'Église. Du moment qu'il y a un début de bonne volonté, une recherche de Dieu, on peut le prendre. Combien de fois il m'est arrivé d'avoir des gens qui demandaient à venir faire la retraite, mais qui étaient inquiets. Ils me téléphonaient avant la retraite, Monsieur l'abbé, je me suis inscrit pour la retraite, mais je ne vous ai pas dit, je ne suis pas catholique. Et je ne vais pas leur crier dessus, bien sûr que non. Je leur dis, mais vous êtes le bienvenu. Si vous cherchez Dieu, est-ce que vous cherchez Dieu? Est-ce que vous cherchez la vérité? Ah ben oui, je la cherche, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Donc Jésus va monter dans cette barque pour n'être point accablé par la foule, c'est-à-dire qu'il fuit le tumulte et l'agitation des âmes charnelles. Il vient à ceux qui méprisent la vanité du siècle et se complaisent à faire en eux sa demeure. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir rentrer dans nos âmes, demande d'abord à ce que l'âme se coupe de l'esprit du monde. La première condition pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien garder de ce qui est dans le monde. Mais il faut avoir une hiérarchie des valeurs. D'abord notre Seigneur Jésus-Christ et ensuite le reste. Les pères font remarquer qu'il y a une différence marquée entre presser, accabler le Seigneur et le toucher. Il est noté au verset 10, comme il en guérissait beaucoup, tous ceux qui avaient quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Cela, disent les pères, le presse et l'accable qui, par des pensées ou des actes charnels, troublent la paix où la vérité demeure. Toucher le Christ, donc il y a deux mots, presser, toucher. Toucher le Christ, au contraire, c'est par la foi et l'amour, le recevoir dans son cœur. Ainsi, nous voyons que l'évangéliste fait remarquer que ceux qui le touchèrent furent guéris, pas ceux qui le pressaient. Parce que ceux qui le pressaient accablent le Seigneur. Mais sans vraiment chercher le vrai. Au contraire, ceux qui le touchent acceptent de se laisser influencer par notre Seigneur Jésus-Christ et ceux-là seront guéris. C'est pour ça qu'il y a les deux termes. Ceux qui le pressaient, c'est-à-dire ceux qui se jetaient sur lui dès l'évangile, et ceux qui le touchent. Alors, moralement parlant, donc les Hérodiens, verset 6, il est parlé des Hérodiens qui se groupent avec les pharisiens contre notre Seigneur. Les Hérodiens sont les hommes charnels qui font mourir Jésus-Christ, car Hérode signifie couvert de pot. Ceux qui quittent leur pays, c'est-à-dire leurs habitudes vicieuses, suivent Jésus-Christ et leurs plaies, c'est-à-dire leurs péchés, qui sont les blessures de leurs âmes, sont guéris par le Sauveur Jésus en nous. C'est la raison qui veut que notre barque, c'est-à-dire notre corps, soit au service de ce divin maître dans la crainte d'être submergé sous les vagues des choses de la terre. Donc les péchés représentent les blessures de nos âmes. On peut dire, si vous voulez, que les péchés vont empêcher l'âme de se rapprocher de Dieu. On peut prendre une comparaison toute simple, dans le même esprit. Imaginez quelqu'un qui s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ avec une petite coque de noix, tout petit canot. Mais si le canot est plein de fissures, eh bien, l'eau rentre par les fissures, on ne peut pas s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ces fissures représentent nos péchés, les blessures de l'âme. Et donc, avant, pour pouvoir s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par colmater les fissures, c'est-à-dire empêcher les blessures de notre âme de nous envoyer par le fond. Si au contraire, les blessures de nos âmes sont là, il y a plein de fissures dans la barque, c'est-à-dire notre corps, ne peut pas se mettre vraiment au service de notre Seigneur. Alors, il y a une remarque en bas de la page 18 sur le polycopier, donc que je vous ai déjà cité plusieurs fois. Il faut observer que les démons doutaient et ne savaient pas de façon certaine si le Christ était le Messie, le Fils de Dieu. En voyant la grandeur du mystère, l'infinie dignité et humiliation du Christ incarné, chose incompréhensible pour l'orgueil du démon. Qu'une seule chose que le démon ne peut pas comprendre, c'est l'humilité. Les humiliations sont des choses que le démon ne peut pas comprendre, précisément parce que il est lui-même pétri d'orgueil. Nous sommes en haut de la page 19. Les démons ne connaissaient pas le fruit et l'objet du mystère de l'incarnation, la mort du Christ, qui allait racheter les hommes et ériger le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Donc il va y avoir ce combat terrible entre d'une part l'armée du démon et d'autre part l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, si les démons avaient su par avance les conséquences de la passion, mais ils n'auraient jamais fait crucifier notre Seigneur. Alors, nous en sommes au verset 13 maintenant, Saint Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. Voici le texte sacré. Jésus voulut ensuite monter, monta, monta ensuite, pardon, sur une montagne, et il appela à lui ceux qu'il lui-même voulut. Ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Et il leur donna le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. C'était Simon, qui lui donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, qu'il nomma Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l'Iscariote, et qui le trahit. Donc on voit l'appel des apôtres, l'appel des apôtres. On voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ a mis dans l'âme des apôtres le désir de le suivre. C'est presque miraculeux parce qu'ils ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus-Christ vraiment. Il n'a pas encore fait de miracles, pas beaucoup en tout cas, et bien pourtant ils vont accepter de le suivre. Et tout de suite, notre Seigneur Jésus-Christ va leur donner des pouvoirs extraordinaires, pouvoir de guérir les maladies, pouvoir de chasser les démons. Ce sont des pouvoirs qui ne donnent pas habituellement, même à nous, prêtres. Le prêtre n'a pas en soi le pouvoir de guérir les maladies corporelles et de chasser les démons. Il peut avoir le pouvoir de chasser les démons. Dans certains cas, il peut le faire par l'exorcisme, des exorcismes. Mais c'est un pouvoir qu'on ne peut pas utiliser sans une certaine juridiction donnée par l'Église, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va tout de suite leur donner des pouvoirs extraordinaires parce qu'il sait que sans ces pouvoirs extraordinaires, ils ne pourront pas être des véritables ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Les pères de l'Église font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ quitte la foule, monte sur la montagne, tout en appelant à lui les 12 premiers apôtres. Et donc Saint Jean Chrysostome fait remarquer qu'il Il enseigne par là au premier pasteur de l'Église à passer les nuits en prière avant les ordinations, afin que leur ministère ne soit point privé de son efficacité. Notre Seigneur Jésus-Christ forme les âmes de ses prêtres, de ses évêques. En fait, ici, il parle des évêques, puisque les apôtres sont les premiers évêques. Les disciples sont les premiers prêtres. Et donc, il va leur faire quitter le monde pour qu'ils puissent être plus accessibles à la grâce du bon Dieu. Donc, cette montagne, il monte sur la montagne, dit le texte, cette montagne où le Seigneur daigne les choisir figure l'éminence de la sainteté à laquelle il devait tendre et qu'il devait ensuite prêcher aux hommes. On voit souvent dans la Sainte Écriture notre Seigneur Jésus-Christ comparé à la montagne. Pourquoi ? Parce que il y a un sens spirituel derrière ici qui est expliqué par les pères. Jésus-Christ est cette montagne d'où jaillissent les eaux vives, où se prépare le lait pour le salut des enfants, où l'on trouve l'abondance des richesses spirituelles avec la foi, le trésor du souverain bien. Il faut remonter à la source. Vous pouvez avoir devant chez vous une eau toute sale qui passe dans un torrent qui a été souillé. Donc on remonte vers la source pour retrouver la pureté de l'eau. Et cette source, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la source d'où jaillissent les eaux vives. Et toutes ces faveurs célestes sont là comme un dépôt, comme en dépôt sur cette mystérieuse montagne. Aussi, est-ce sur cette montagne que le Seigneur appelle ceux qui excellent par leurs discours et leurs œuvres, afin que l'élévation du lieu soit en rapport avec l'élévation de leur mérite. Donc il y a toute une série de symboles qui sont derrière. On monte sur la montagne, parce que les eaux jaillissent de la montagne. Elles jaillissent d'en haut, elles ne jaillissent pas en bas de la vallée. Elles jaillissent en haut, et ensuite elles quittent la montagne pour aller abreuver les gens qui habitent loin de la montagne. Donc cette montagne représente notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on est obligé de, en tant que disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, de monter sur la montagne littéralement pour pouvoir recevoir une eau pure. Alors, les pères vont se poser la question aussi de savoir pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a choisi 12 apôtres. Évidemment, c'est un nombre symbolique. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël. Et ce nombre mystérieux, dit Saint Bède le Vénérable, était figuré autrefois par les enfants d'Israël qui campaient autour du tabernacle. Donc il y avait 3 tribus qui stationnaient sur chacun des côtés du tabernacle. Comme il y avait 4 côtés, 4 fois 3, 12. Et c'est au nombre de 12 que les apôtres furent envoyés pour prêcher l'évangile aux 4 parties du monde et baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc les 4 parties du monde multipliées par les 3 personnes de la Sainte Trinité, on retrouve encore une fois le chiffre 12. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va prendre à lui 12 apôtres, parce que ce chiffre 12 montre, est un symbole, si vous voulez, de la prédication universelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va envoyer les apôtres dans le monde entier. Bon, lui-même est le nouveau tabernacle, si vous voulez. Et de même que les tribus dans le désert, dans le long voyage depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, dans le désert, quand le peuple juif arrêtait de marcher, donc ils mettaient au centre du camp le tabernacle. Le tabernacle. Et sur le côté de chaque côté du tabernacle, on groupait les tribus, 3 par 3. Eh bien, de la même façon, si vous voulez, notre Seigneur Jésus-Christ est le nouveau tabernacle. Et il faut venir près de lui pour s'alimenter à ce tabernacle et ensuite partir dans le monde entier pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, prêcher et baptiser. Le Sauveur, disent les pères, voulait aussi que ses apôtres fussent sous la nuée de la chair qui les enveloppait, et par le feu de la parole, des foudres spirituelles, versant la pluie sur la terre, semblable en cela au Seigneur qui change en pluie les éclats de la foudre et éteint par l'eau de la miséricorde le feu de la vengeance. Donc, il y a une idée encore ici qui est très nette chez les pères de l'Église, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est le feu divin. À la fois comparé au feu divin et à l'eau de la miséricorde. Parce que le feu éclaire, le feu purifie, le feu réchauffe. Bon. Et le feu est aussi le symbole des ennemis, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce cas-là, notre Seigneur Jésus-Christ va éteindre ce feu des ennemis par l'eau de sa miséricorde. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ va donc choisir 12 apôtres. Notez bien que c'est lui qui les choisit. Ce n'est pas les apôtres qui viennent à lui directement. C'est lui qui choisit les apôtres et qui appelle les apôtres par leur nom. Notre Seigneur Jésus-Christ, on voit encore une fois ici, on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ ne considère pas tous les hommes de la même façon. Il y en a qui l'aiment davantage. Donc quelque chose de bien difficile à comprendre, à accepter pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais, jamais prêché l'égalité. Ça, c'est tellement difficile à expliquer dans le monde moderne. J'ai remarqué que c'est une, dans la prédication, c'est certainement une des choses qui ne passent pas dans le monde moderne, même parfois avec les catholiques. Parce que, sans vouloir l'avouer, je dirais au fond d'eux-mêmes, la plupart des catholiques pensent que toute inégalité entraîne l'injustice. Les hommes doivent tous être égaux. Or, Dieu a créé les hommes inégaux. Bien sûr, de nature, les hommes sont tous égaux dans le sens qu'ils ont tous la nature humaine, ils sont tous créatures de Dieu. Mais il a voulu que les hommes soient différents. Tous les hommes sont créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu, puisqu'il faut être baptisé pour être enfant de Dieu. Donc quelqu'un qui n'est pas baptisé par le baptême, sacrement de baptême, n'est pas enfant de Dieu. Alors dès qu'on explique ces choses-là, même à des catholiques de tradition parfois, on sent qu'ils réagissent même parfois sans nous le dire, ils considèrent que c'est injuste, qu'il faudrait que tous les hommes aient reçu les mêmes grâces. Bien non. Et si on le voit bien, avec la nomination des apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ va chercher certains apôtres, il était entouré d'une grande foule, l'Évangile parle souvent de la foule qui le suit, il y avait beaucoup de gens autour de lui, qui venait se faire guérir, qui venait le presser, le toucher, j'ai déjà expliqué, eh bien, il va tirer de cette foule 12 personnes. Pour bien montrer que ces gens sont spéciaux pour lui, il va les tirer de la foule, les faire quitter la foule en les faisant monter sur la montagne. Et encore une fois, il va leur donner des pouvoirs spéciaux qu'il ne donne pas aux autres. Le pouvoir de guérir les maladies et le pouvoir de chasser les démons. Alors, l'Évangile nous dit que Saint Jean sera nommé Boanerges, fils du tonnerre. Donc, en fait, Christ appelle Saint Jacques et Saint Jean, il les appelle Boanerges. Les pères pensent que le terme Boanerges s'adresse aux deux frères, Saint Jacques et Saint Jean. Car Jésus les chargea plus que les autres avec la glorieuse prédication de son évangile, afin que, par la sainteté de leur vie, ils devinrent comme des éclairs. Et puissent, par la puissance de leur voix, réveiller comme un coup de tonnerre les infidèles et les barbares et les conduire ainsi à la repentance, à la vie sainte. Donc, si vous voulez, les éclairs représentent le Saint-Esprit. Le coup de tonnerre, c'est la voix de la prédication des apôtres qui réveille les endormis. Les gens sont endormis, donc notre Seigneur Jésus-Christ va les réveiller par la prédication des apôtres qui représente le tonnerre divin et par les éclairs qui représentent justement l'illumination par la grâce sanctifiante. Nous avançons, nous en sommes maintenant au verset 20, 21, 22 de Saint Marc, en bas de la page 19. Ils vinrent dans la maison et la foule s'y rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger du pain. Et ses proches, ayant appris cela, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu l'esprit ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé de Belzéboub, et c'est par le prince des démons qui chasse les démons ». Notons que ses proches sont à la fois les disciples, les apôtres, mais également les membres de sa famille. Notre Seigneur Jésus-Christ avait choisi, pas tous, mais nombreux étaient les apôtres qui étaient membres de la famille physique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était les cousins de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre autres, si mes souvenirs sont exacts, Saint Jacques et Saint Jean. Donc le Seigneur ramène à la maison ceux qu'il avait choisis sur la montagne, comme pour leur apprendre qu'après avoir reçu la dignité de l'apostolat, ils devaient rentrer dans leur conscience. Donc il les prend à part, il les forme, il leur donne les pouvoirs spéciaux, guérir les maladies, chasser les démons, et ensuite il va les renvoyer dans le monde, mais uniquement une fois qu'ils se sont remplis du bon Dieu. Malheur aux prêtres qui se lancent dans la prédication sans s'être d'abord unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la prière et la pénitence. Donc on prie d'abord, fait pénitence, et ensuite on prêche, et pas l'inverse. C'est le drame de l'Église de Vatican II. Ils se lancent à corps perdu dans l'apostolat, mais ils n'ont pas pris le soin de commencer par se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, précisément par la vie de prière et la vie pénitentielle. Nous sommes en haut de la page 20. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va chasser les démons, surtout les disciples de Baal, B-A-A-L ou B-E-E-L. Donc, ça signifie la mouche. C'est pour ça que un des noms des démons, c'est Belzéboub, c'est-à-dire l'homme des mouches. Pourquoi ? Parce que c'est symbole du démon aussi, parce que la mouche qui tourne autour de la nourriture, par exemple, qu'on vient de préparer, imaginez que vous avez préparé une pièce de viande pour le repas, et bien si vous ne la protégez pas, les mouches vont venir et vont rendre la pièce, vont souiller tout de suite la pièce de viande. Ils vont déposer leurs œufs sur la viande et la pièce va devenir dangereuse pour la nourriture humaine. Elles sont obligées de la jeter parce qu'elle a été contaminée par les mouches. Et bien ces mouches qui nous assaillent constamment, vous avez déjà vu ça très souvent, quelques mouches dans un bureau et qui viennent se poser sur le bout de votre nez, vous avez beau les chasser, elles reviennent tout le temps. Constamment, vous pouvez les chasser 10, 20, 30, 100 fois, elles reviennent 10, 20, 30, 100 fois. Elles représentent le démon qui ne se laisse pas chasser. Et donc, les mouches représentent les démons. Et de même que les mouches laissent des souillures partout sur tout ce qu'elles touchent, de la même façon, le démon va laisser des souillures de sa présence sur tout ce qu'ils vont toucher. Alors, l'Évangile nous parle d'une maison. Au verset 20, « Ils vinrent dans la maison et la foule s'y rassembla de nouveau. » Bien, les pères font remarquer que cette maison, au sens mystique, c'est la primitive Église. La foule qui empêche de manger le pain sont les péchés, les vices. Car celui qui mange ce pain indignement mange et boit sa propre condamnation. Donc ce sont les péchés et les vices qui vont nous empêcher de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, pour pouvoir espérer être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours une condition préalable, à savoir quitter le péché. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas simplement guérir physiquement les apôtres, ceux qui le suivent, tous ceux qui s'approchent de lui, il va les guérir, faire plein de miracles. Mais il ne fait pas de façon sans condition. En fait, il fait ses miracles pour guérir le corps, pour amener la guérison de l'âme. Et c'est pour ça qu'il va dire, dans bien des cas, après avoir guéri physiquement le corps, allez en paix, vos péchés sont pardonnés, pour bien montrer que la guérison du corps n'est que le symbole d'une guérison bien plus importante. Cette guérison bien plus importante, c'est la guérison de l'âme. Avançons donc page 20, versets 23 à 30 du chapitre 3 de Saint Marc. Jésus, les ayant appelés auprès de lui, leur disant en parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne pourra subsister, et sa puissance prendra fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Si auparavant il ne lie cet homme fort, alors il pillera sa maison. » En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront remis aux enfants des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon et sera coupable d'un péché éternel. Car il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc, ceci montre à quel point notre Seigneur Jésus-Christ a pouvoir sur les démons. Le Seigneur enchaîne le fort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens si autrement, auparavant, il ne lie cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui suit notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment fort contre le démon. Et au contraire, celui qui ne se confie pas en notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il sera sans aucune protection face au démon. Donc le démon peut venir, va le lier pour l'empêcher de se défendre et va piller sa maison. C'est-à-dire piller son âme et mettre le péché dans son âme. Étant entré dans la maison, donc je répète la phrase de Saint Bède le Vénérable, le Seigneur a aussi enchaîné le fort, c'est-à-dire le démon, en paralysant les moyens de séduction qu'il emploie contre les élus. Étant entré dans la maison, c'est-à-dire dans le monde, il a pillé sa maison et ravi ses meubles, c'est-à-dire les hommes qu'il soustrait au piège de Satan et incorpore à son Église. Donc on voit, ceci montre justement ce combat terrible entre ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui suivent le démon. Alors ici, notre Seigneur parle de péché contre le Saint-Esprit. Celui qui aura blasphémé contre l'Esprit-Saint n'obtiendra jamais de pardon et sera coupable d'un péché éternel. Alors qu'est-ce que sont ces péchés contre le Saint-Esprit? Pourquoi sont-ils impardonnables? Ça veut dire que lorsqu'on est dans ces péchés contre le Saint-Esprit, on se met dans une situation telle que tant qu'on reste dans cette situation, on ne peut pas s'en sortir. Dans le catéchisme, il est expliqué qu'il y a 6 péchés contre le Saint-Esprit qui rendent la conversion impossible tant qu'on reste dans cette situation morale. C'est une situation dans laquelle on se met qui empêche la miséricorde du bon Dieu d'agir. Bon, il y en a 6, il faut bien les connaître. Désespérer de son salut, prétendre être sauvé sans mérite, combattre la vérité connue, porter envie aux grâces d'autrui, s'obstiner dans le péché et mourir dans l'impénitence finale. Tant qu'on reste dans une de ces situations, on ne peut pas être sauvé. Premier, c'est être désespéré de son salut. Celui qui désespère de son salut, c'est celui qui limite la miséricorde du bon Dieu. C'est le péché de Judas. Le péché de Judas, qu'il a condamné, si vous voulez, n'est pas en soi le fait qu'il ait trahi notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'ait vendu. Parce que Saint-Pierre aussi a fait la même chose. Mais Judas n'a, je l'ai souvent expliqué, cela c'est important de comprendre, Judas n'a pas cru que notre Seigneur Jésus-Christ était suffisamment puissant pour lui pardonner. Et donc il est tombé dans le désespoir. Alors que Saint-Pierre, qui avait pourtant commis un péché tout aussi grave, lui va croire en la miséricorde du bon Dieu, va se précipiter aux pieds du bon Dieu qui va lui pardonner. Deuxième péché contre le Saint-Esprit, prétend être sauvé sans mérite. C'est-à-dire ceux qui veulent se sauver à la force du poignet, mais sans faire ce que le bon Dieu leur demande de faire pour justement rester en état de grâce. Combattre la vérité connue comme telle. Certains pères de l'Église pensent que ce péché, seuls les démons peuvent le commettre. Mais malheureusement, c'est un péché de plus en plus fréquent. Ces gens qui savent très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mais qui tout en sachant que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, le combattent. C'est ça le drame d'ailleurs. Lorsque les politiciens d'aujourd'hui en France, ils sont pléthores, ils sont légions, luttent contre notre Seigneur Jésus-Christ, luttent contre l'influence de l'Église, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'ils n'y croyaient pas, ils se moqueraient de lui, ils chercheraient même pas à lutter contre lui puisqu'il n'existe pas. Si les politiciens d'aujourd'hui luttent avec tant de force et de conviction contre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'ils savent qu'il existe. C'est vraiment combattre la vérité connue comme telle. Enfin, porter envie aux grâces d'autrui. C'est un péché de jalousie spirituelle. Si je suis jaloux des grâces d'autrui, je ferme les portes de mon âme aux propres grâces que le bon Dieu a prévues pour moi. Enfin, s'obstiner dans le péché, mourir dans l'impénitence finale, les deux derniers péchés contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est les gens qui veulent bien aller au ciel, qui veulent bien se sauver, à condition de garder tranquillement une occasion prochaine volontaire de péché mortel, ou tout simplement qui gardent une occasion, qui restent dans le péché. Il y a des gens comme ça. Ils sont aussi malheureusement de plus en plus fréquents. Ils sont dans le péché jusqu'au cou. Ils veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais à leurs conditions à eux, en refusant de suivre les conditions de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne qui vient voir le prêtre en disant « Oui, moi j'aimerais bien sauver mon âme, mais je vis avec une personne qui n'est pas mon époux ou mon épouse légitime, et je reste avec cette personne. » Donc c'est apprendre ou laisser. Eh bien, monsieur, si vous ne voulez pas vous convertir, si vous ne voulez pas changer votre vie de péché, eh bien, vous ne pourrez jamais obtenir les grâces du bon Dieu. Ça, c'est un drame. C'est d'ailleurs un drame tellement fréquent que c'est ça qui empêche les conversions de bien des gens. La plupart des gens qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas se convertir, bien qu'ils aient parfaitement compris où la vérité, ces gens qui ne veulent pas se convertir sont des gens qui sont dans le péché, qui ne veulent pas en sortir. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ces péchés contre le Saint-Esprit qui ferment la porte à la grâce du bon Dieu vont empêcher l'usage de la miséricorde du bon Dieu. C'est-à-dire que le bon Dieu veut utiliser sa miséricorde pour nous sauver, mais on garde la porte soigneusement fermée parce qu'on ne veut pas que Dieu puisse exercer sa miséricorde sur nous. Une espèce de cercle vicieux. On n'arrive pas à sortir du péché parce qu'on a besoin de la miséricorde du bon Dieu pour cela, mais on ne veut pas que la miséricorde agisse sur nous. Donc on garde la porte soigneusement fermée dans mon âme. Donc le bon Dieu vient, frappe à ma porte, ce qui ne rentre pas comme un voleur, il frappe à la porte, il demande à ce que j'ouvre la porte, mais je ne veux pas ouvrir la porte. Tout en voulant sauver. Donc, si je veux sauver mon âme, mais que je refuse d'ouvrir la porte du bon Dieu, au bon Dieu, eh bien évidemment, je reste dans un état qu'on appelle un péché contre le Saint-Esprit, c'est prétendre être sauvé sans mérite, c'est s'obstiner dans le péché, c'est mourir dans la pénitence finale. Un autre point qui me semble extrêmement très important, il faut bien comprendre, c'est qu'en général, les péchés contre le Saint-Esprit entraînent les péchés, certainement les plus graves qui peuvent se commettre, et que l'Église ne sait pas très bien dans quelle catégorie placer. C'est pour ça qu'elle a créé, le catéchisme parle d'un groupe spécial de 4 péchés qui crient vengeance devant la face de Dieu. Malheureusement, ces péchés sont des péchés extrêmement fréquents et qui sont en train d'inonder le monde, parce que ces péchés sont surtout des péchés contre nature. Pourquoi contre nature? Parce qu'ils vont contre la nature même de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire que le démon qui a coupé l'arbre, pour être sûr que de l'arbre ne donne plus de fruits, et de feuilles, de fleurs et de fruits, il va maintenant arracher les racines même de l'arbre pour être sûr que l'arbre ne puisse jamais repousser. Ce sont surtout les deux péchés d'avortement et de pratique de l'homosexualité, la sodomie. Bon. C'est pour cela que lorsque nous avons devant nous des pauvres gens, je plains vraiment de tout mon cœur, hein, qui vivent dans ces vices contre nature, surtout le vice de sodomie, et qui pratiquent leur sodomie, tant qu'ils restent là-dedans, ils ne peuvent pas s'en tirer. Alors, il y a des conversions, moi j'en ai connu, hein, des conversions magnifiques de gens qui sont sortis du système. C'est très, 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 très difficile, parce que justement, ce sont les péchés contre nature. Et ces deux péchés, l'avortement, le meurtre de l'innocent, sont les péchés qui crient vengeance devant la face de Dieu à cause des conséquences de ces péchés. Le meurtre de l'innocent, c'est pas simplement être coupable d'un meurtre. Le péché d'avortement n'est pas simplement un meurtre, mais il y a une deuxième conséquence, si vous voulez, de l'avortement. L'avortement est d'abord un meurtre, bien sûr, mais c'est aussi un meurtre qui va empêcher un innocent de voir Dieu pour toute l'éternité. L'enfant qui est tué dans le sein de sa mère par avortement ne verra jamais Dieu parce qu'il meurt sans le baptême. N'ayant pas le baptême, il n'a pas la vertu de charité en lui, il a le péché originel qui est un obstacle absolu. Donc il ne pourra jamais voir Dieu, il ira au limbe. Donc il y a un double crime. D'une part, un meurtre, d'accord, d'un innocent, et deuxièmement, envoyer cet innocent par sa faute au limbe, et cet innocent ne verra jamais Dieu. Donc il y a le meurtre de l'innocent et la sodomie, et l'Église rajoute aussi deux autres péchés qui sont malheureusement aussi très fréquents, l'oppression des pauvres et le refus du juste salaire aux ouvriers, dont on parle sans doute pas assez. Ces 4 péchés sont les péchés qui crient vengeance devant la face de Dieu. Vous voyez? Donc vous voyez, il y a des catégories spéciales de péchés, donc en général, on rajoute à ces 2 catégories les péchés contre le Saint-Esprit, les 6 péchés que j'ai cités, les 4 péchés qui crient vengeance devant la face de Dieu. Et en général, on groupe avec ça aussi ce qu'on appelle les péchés capitaux. Ils ne sont pas forcément des péchés mortels, ils sont appelés capitaux car ils sont la source, ou la tête, c'est caput en latin, qui va donner capital, et ils sont la source d'innombrables péchés. Donc, il y a l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Donc, et ces péchés capitaux, il y a un lien si vous voulez. Les péchés capitaux, s'ils ne sont pas dominés, surtout l'orgueil, l'envie, vont amener au péché contre le Saint-Esprit, notamment le porter envie aux grâces d'autrui, ce qui entraîne un désespoir de son propre salut en prétendant être sauvé sans mérite, et cela va amener au péché contre nature. C'est-à-dire surtout au péché d'avortement et au péché d'homosexualité. Donc je mets sur une petite note que j'ai déjà expliquée, mais qui est importante surtout par les temps qui courent. Si quelqu'un a une tendance mauvaise, j'ai un jeune homme de 18 ans qui me dit: Monsieur l'abbé, je sais que je suis attiré par les hommes et pas par les femmes. C'est terrible, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a faute? Non, pas en tant que tel. C'est comme si quelqu'un me disait: Monsieur l'abbé, moi je suis attiré par l'alcool. J'ai envie de boire tout le temps parce que je viens d'un milieu où tout le monde boit et je suis attiré par l'alcool. Est-ce que c'est une faute d'être attiré par l'alcool? Non, la faute consiste à tomber dans la tentation et boire plus que de raison. Mais c'est la même chose, quelqu'un qui a une tendance homosexuelle, qui sait qu'il est attiré, un homme qui est attiré par d'autres hommes, ou la femme qui est attirée par les femmes, elle a une tendance qui est mauvaise en elle. Ça, c'est une preuve de l'existence du péché originel. Mais tant qu'elle lutte contre la tendance, qu'elle se confesse, qu'elle fait pénitence, qu'elle prie pour lutter contre la tendance, et surtout qu'elle fait très attention à ne pas être en contact avec des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes tendances qu'elle, cette personne peut vivre en état de grâce. Et non seulement vivre en état de grâce, mais se sanctifier en vivant en état de grâce. Et le plus important, quand j'ai des cas comme ça devant moi, ça arrive malheureusement, quand j'ai des cas comme ça de gens qui me disent: Monsieur l'abbé, j'ai cette tendance, le premier conseil que je vais leur donner, c'est de leur dire: fuyez comme la peste les gens qui ont la même tendance que vous. Ce qui se ressemble, s'assemble. C'est ça le drame, c'est que les gens qui ont ce genre de tendance vont avoir justement le désir de se grouper avec des gens qui ont les mêmes problèmes, parce que ça les rassure. Et donc, il est impératif pour qu'ils puissent vivre en état de grâce qu'ils ne soient pas entourés de gens qui ont les mêmes tendances qu'eux. On avance en bas de la page 20. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça, en bas de la page 20. Versets 31 à 35. Cependant, la mère de Jésus et ses frères survinrent, et se tenant dehors, ils l'envoyaient rappeler. Or, la foule était assise auprès de lui, autour de lui. On lui dit: Voici que votre mère et votre frère et vos frères sont dehors et vous demandent. Et il leur répondit: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Promenant ses regards sur eux qui étaient assis autour de lui, il dit: Voici ma mère et voici mes frères. Que quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Il faut bien savoir quelle est l'interprétation de l'Église pour ces versets. Ici, on parle de la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, donc Notre-Dame, et aussi de ses frères. Et donc, les ennemis de l'Église vont utiliser cette phrase pour dire: donc notre Seigneur Jésus-Christ avait des frères, et s'il avait des frères, donc la Sainte Vierge Marie n'a pas été mère d'un enfant unique. Donc, elle a eu d'autres enfants, donc elle n'est pas vierge. En fait, le mot frère, chez les Juifs, avait un sens beaucoup plus large. Ça veut dire tous les membres de la famille. Donc les cousins, par exemple, les cousins, les cousines, étaient considérés comme des frères. Donc les membres de la famille, les pièces rapportées, étaient considérés comme des frères, comme des sœurs. Et donc lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle de ses frères, il parle de ceux qui sont liés par le sang avec lui. Ce ne sont pas ses frères de sang directement, mais ceux qui sont membre de la famille au sens large. En parlant de la sorte, notre Seigneur ne renie ni sa mère ni ses frères, mais il montre qu'il faut placer l'estime qu'on doit faire de son âme bien au-dessus de tous les liens du sang. Et il donne cette leçon à ceux qui recherchaient la conversation de leurs proches comme une chose plus utile que la doctrine du salut. L'âme devient plus importante que les membres de la famille. Sauver son âme, c'est plus important que le reste. Donc ce qu'il veut dire là par là, quand il dit « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère », il explique bien que si les membres de ma famille, peut-être mes frères et sœurs, c'est peut-être les membres de familles éloignées autour de moi, sont pour moi une source de péché, sont des gens qui me poussent loin de Dieu, je dois couper avec eux. Parce qu'encore une fois, il vaut mieux avoir un seul œil, et aller au ciel, plutôt que de garder impérativement ses deux mains, ses deux, de pieds, ses deux yeux, est tombé au ciel, tombé en enfer. Vous voyez ? Donc, si la famille est une occasion de péché, si les morts éloignés même de la famille me poussent à offenser le bon Dieu, ben, il vaut mieux couper plutôt que perdre son âme. C'est ce que veut dire notre Seigneur. Saint Jérôme explique « Sachons que nous sommes les frères et les sœurs de Jésus à cette condition que nous accomplirons la volonté de son Père afin d'être un jour ses co-héritiers. Car Jésus discerne ses frères et ses sœurs d'après leurs actes et non d'après la différence des sexes. » Donc celui qui est vraiment frère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et quel est celui qui fait la volonté de Dieu ? Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui vit en état de grâce. Encore une fois, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu qui la met en pratique. Ça veut dire quoi ? Écouter la parole de Dieu pour obtenir le don de la foi et ensuite la mettre en pratique par les dons de charité. Donc ce n'est pas la foi qui sauve, mais la charité. Écouter la parole de Dieu, je dirais tout le monde peut le faire. Ça ne suffit pas. Il faut vivre en état de grâce. Et ça, c'est la vertu de charité. Alors, Saint Bède le Vénérable explique, en bas de la page 20 sur le polycopier, que dans le sens mystique, la mère et le frère de Jésus sont la synagogue et le peuple juif, qui lui aussi était sorti de la synagogue. Ils ne peuvent entrer dans l'intérieur de la maison pendant que Jésus y enseigne parce qu'ils ne s'appliquent point à entendre dans le sens spirituel ces divins oracles. Et pour pouvoir rentrer dans la maison, donc ils cherchent à rentrer dans la maison, c'est pour ça qu'ils se tiennent dehors, dit le verset 31. Sa mère et ses frères survinrent, se tenant dehors, ils l'envoyaient rappeler. Ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Eh bien, cela représente, disent les pères de l'Église, ceux qui ne s'appliquent pas à mettre en pratique les paroles qu'ils entendent. Donc ils restent à l'extérieur. Ils restent à l'extérieur parce qu'il faut la vertu de charité pour rentrer dans la maison. Rappelez-vous, les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages sont les vierges qui ont la charité. Lorsque l'époux arrive au milieu de la nuit, elles peuvent rentrer avec lui dans la maison. Au contraire, les vierges folles, qui n'avaient pas pris soin de remplir le récipient d'huile, eh bien, vont devoir aller en acheter au milieu de la nuit. Et lorsqu'elles sont au loin, notre Seigneur Jésus-Christ vient. Et ensuite, elles ne pourront plus rentrer parce que justement, il leur manque cette vertu de charité. Pour rentrer avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la maison, il faut avoir cette vertu de charité. Donc, pouvoir entendre ces divins oracles. Ce ne sont pas ceux, encore une fois, qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui mettent en pratique la parole du bon Dieu par la vertu de charité. Page 21, en haut de la page. La foule prévient les Juifs et parvient jusqu'à Jésus. C'est-à-dire que tandis que la nation juive ne s'empresse nullement de venir à Jésus, les gentils affluent vers lui de toutes parts. Donc, la foule représente, tous les gens qui ne sont pas juifs. Il n'y a pas simplement les juifs, il y a aussi la foule. C'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de la nation juive. La nation juive ne s'empresse nullement de venir à Jésus, vont même en grande partie le rejeter. Et c'est la foule qui représente les gentils. Les gentils vont affluer vers lui de toutes parts. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser Saint Paul, surtout au début, c'est lui, pour aller prêcher aux gentils. Les gentils, c'est les non-juifs. Les juifs étaient persuadés que seuls les juifs avaient droit au royaume des cieux, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour prêcher, ne prêcher qu'aux juifs, et que donc le paradis n'était réservé qu'aux juifs. Et ils ont beaucoup de mal à comprendre, avec la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver tous les hommes. De volonté antécédente, il voulait absolument que tous les hommes aillent au ciel, même si de volonté conséquente, malheureusement, seuls ceux qui meurent dans la charité seront unis à lui au ciel pour toute l'éternité. Donc les parents de Jésus, qui se tiennent dehors, les membres de sa famille éloignée, qui veulent le voir, ce sont les Juifs, qui, se tenant dehors, se constitue gardien de la lettre et qui aime mieux presser Jésus de sortir pour leur donner un enseignement tout charnel plutôt que d'entrer pour recueillir sa doctrine toute spirituelle. Si donc, par cela seul qui se tient dehors, Jésus ne voulut point reconnaître ses parents, comment nous reconnaîtra-t-il si nous restons dehors, car c'est au-dedans qu'est le Verbe, c'est au-dedans qu'est la lumière. Pouvoir rentrer dans la maison est une condition. Pour rentrer dans la maison, il faut être en état de grâce. La maison représente l'Église, je vous l'ai déjà dit. Donc celui qui n'a pas l'intention de vivre en état de grâce,
reste à la porte, il ne peut pas rentrer. Pour rentrer dans cette barque qui amène au ciel, il faut vivre en état de grâce. Donc il faut accepter de changer ce qui doit être modifié dans sa vie de tous les jours pour vivre en état de grâce. Et c'est le drame, si vous voulez, de ceux qui ne veulent pas changer. Rappelez-vous cette belle partie de l'évangile, donc cet homme riche, jeune homme riche qui vient à notre Seigneur Jésus-Christ et qui lui dit: Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Notre Seigneur Jésus-Christ lui dit: bien, il faut suivre les commandements. Et le jeune homme lui dit: je le fais déjà. Et l'évangile dit: l'homme, Dieu regarde à l'homme, ce jeune homme, et l'aima. C'est le symbole de la vocation. Il va donner une grâce particulière à ce jeune homme pour lui faire comprendre qu'il est appelé par Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui dire: si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que vous avez, donnez le produit de cette vente aux pauvres, puis venez, suivez-moi. Et l'évangile fait remarquer: cet homme repartit chez lui tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Donc le bon Dieu lui demandait de faire le sacrifice de ses biens pour le suivre dans l'esprit de pauvreté, et l'homme a refusé. Eh bien, c'est un peu ce qui arrive malheureusement à beaucoup de gens. Beaucoup de gens viennent, écoutent la parole du bon Dieu, écoutent la prédication de l'évangile, mais s'en vont. J'ai vu ça, entre autres dans les exercices Saint-Ignace, quand des gens s'en vont au bout du deuxième jour, avant les confessions, ils partent, en général, sans me le dire, ils prennent leur valise et s'en vont. Ils s'en vont sans le prévenir le prêtre, parce qu'ils se rendent très bien compte que s'ils restent, il va falloir qu'ils se convertissent et qu'ils changent de vie. Ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas de conversion, ils ne veulent pas de changement de vie. Alors ils s'en vont, pour être sûr de ne pas avoir à changer sa façon de vivre. C'est très triste quand on voit, heureusement ce n'est pas très fréquent, mais ça arrive quand même malheureusement de temps en temps, quand on voit des âmes qui sont certainement des belles âmes, mais qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ, et plus exactement, qui veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais à condition que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ qui se mette à leur suite. C'est eux qui indiquent le chemin, notre Seigneur Jésus-Christ veut les suivre. Bon. Eh bien, en gros, ils ne veulent pas devenir les esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ, ils veulent que notre Seigneur Jésus-Christ devienne leurs propres esclaves. Et donc, ils vont pas pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ et refuser de se convertir. Et c'est terrible parfois quand on se rend compte qu'on a devant nous des gens qui ont tout pour devenir des saints, mais qui ne veulent pas devenir des saints parce qu'ils ne veulent pas passer par les points de passage obligatoires, à savoir la conversion personnelle. Alors, en général, c'est parce qu'il y a une histoire de mariage ou une cohabitation coupable, ou dans d'autres cas aussi, c'est parce qu'il y a une réparation qui s'impose qu'ils ne veulent pas faire. Ça, c'est aussi très très fort, j'ai remarqué, malheureusement, assez fréquent. Ces gens qui se rendent compte que pour pouvoir faire une bonne confession générale de retraite, ben, il faut qu'ils prennent la résolution de rendre ce qu'ils ont volé. Or, ils ont acquis pas mal de biens de façon frauduleuse, façon pécamineuse. Et ils se rendent compte que ben, pour pouvoir recevoir la paix du bon Dieu, il faut qu'ils commencent par rendre ce qu'ils ont volé, le produit de leur vol, et ils ne veulent pas. Donc, ils veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ à condition de garder le produit du vol. Mais tu es obligé de leur dire, ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Donc, puisque vous avez livré votre âme à l'argent dans le passé, il faut maintenant vous couper, surtout vous couper de cet argent illégitime que vous avez reçu, et il faut changer tout ça. On voit aussi parfois pour des péchés contre la charité, des haines, et c'est d'ailleurs des haines terribles parce qu'elles sont très très ancrées dans les âmes, bien difficiles à couper ça, les gens qui gardent la haine contre certaines personnes. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, a dit notre Seigneur. Et donc, ils ne veulent pas pardonner, et refusant de pardonner, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes demander le pardon. Donc, ils partent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas se convertir. Alors, nous arrivons donc au chapitre 4 de Saint Marc. Vous voyez que ça va quand même un peu plus vite qu'avec l'évangile selon saint Matthieu. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a des redites dans les textes évangéliques, surtout entre les trois premiers évangiles, ce qu'on appelle les trois synoptiques, saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. Il y a des passages qui se recoupent, qui se retrouvent dans les trois évangiles ou dans deux évangiles. L'évangile selon saint Jean un peu à part. Et donc, évidemment, ce que les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin, déjà expliqué pour l'Évangile selon saint Matthieu, il ne va pas répéter les mêmes choses pour l'Évangile selon saint Marc, et donc c'est plus court dans les explications. Quand on verra que dans saint Jean, de nouveau, il y aura beaucoup de choses à dire parce que c'est un Évangile un petit peu à part. Je vais en terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pilice, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.